tous. Retrouvez tout de suite l'équipe de la demi-heure sport.
Bonsoir à tous, il est 19h23, je suis ravi de vous retrouver pour le dernier numéro de la demi-heure sport de la saison. L'émission est réalisée par Cyril, comment ça va Cyril?
C'est moi, bien, merci beaucoup.
Merci Cyril pour cette préparation, en fait si vous ne savez pas, il nous a juste lancé le live, il nous a dit on prend le direct dans 10 secondes.
Ah c'est ça, exactement. Et je me rends compte que les caméras finalement tu les as touchées et ça marche plus.
C'est pas grave.
Donc tu regardes, c'est pas grave.
Les studios sont vides mais je suis bien dans les
bon,
studios.
Bon on va voir.
Voilà. Et je crois que si on voit notre invité...
Mais bien sûr c'est le principal.
Et voilà, mais c'est, eh ben, c'est oh, parfait.
Mais non, mais non, il n'y a plus...
Ah si, ouais. il est là. Et ben, du coup, présentation de notre invité du soir, c'est Stéphane Lavignac. Et Stéphane Lavignac, il est bien connu dans le paysage du cyclisme en Dordogne. Il est président du club de Dordogne Sud.
Cyclisme,
ouais. Oui, pardon. Et il est aussi, du coup, il a aussi une autre fonction. Il est arbitre du coup international à l'UCI. Et aussi, donc, il est commissaire.
Alors c'est pas international, c'est commissaire national élite, reconnu par l'ICI.
Voilà reconnu ça, par. Merci pour la précision. Stéphane, un petit peu en quelques mots, si tu avais pour nos éditeurs qui ne connaissent pas, une petite présentation de toi.
Alors déjà pour commencer, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Moi j'ai 51 ans, donc je suis enseignant, je suis professeur de chaudronnerie. Je suis passionné par le cyclisme depuis l'âge de 6 ans, où je suis licencié à la Fédération française de cyclisme. Sans aucune interruption depuis l'âge de 6 ans, coureur dans les catégories jeunes, école de vélo, cadet, minime cadet, junior. J'ai fait 11 ans à la Fédé en première catégorie, voilà, avec des clubs à l'SPT Périgueux, CRCL Limoges. Et puis après, j'ai fini ma carrière sur un club bergeracois, le Guidon bergeracois. En faisant un petit passage à l'EC Ribérac, justement, là où on est.
Ah oui.
Voilà, sur un an avec M. Chaunis. Et puis après, ben, en 2000, à peu près 2004, j'ai arrêté ma carrière. Voilà. Bon, une petite carrière tranquillou. Et puis après, je suis toujours resté dans le monde du vélo parce que ça, c'est ma passion. Mon père était coureur, mon frère était coureur, donc ben, moi aussi. Donc ben, on continue un peu. Voilà.
Avec quelques victoires aussi au compteur.
Oui, quelques victoires, mais bon, ça, ça fait longtemps quand même.
Ça fait longtemps.
Oui, quelques victoires.
Ouais. Stéphane, qu'est-ce qui t'a rapproché de l'arbitrage au plus haut niveau?
Alors après, certes, il y a mon père qui était arbitre, qui a fait plusieurs Tours de France, qui a fait pratiquement toutes les épreuves qu'il y a en France. Donc ça, c'est la première chose qui m'a mené à l'arbitrage. Mais après, quand j'ai arrêté ma carrière, Je ne voulais pas faire de l'encadrement avec des jeunes. Ce n'était pas ma priorité principale. Et je me suis dit, pour rester dans le milieu, il n'y a pas 50 solutions. Ben je veux faire arbitre. Voilà. Donc après, j'ai gravi des échelons régional, national, commissaire national élite. Et puis après, voilà, j'arrive à faire des courses au niveau international. En sachant que maintenant, je suis aussi éducateur, donc je me suis fait avoir sur les deux plans. Et puis, je fais l'arbitrage et puis je m'occupe des jeunes sur des écoles de VTT ou sur la route.
Pourquoi tu t'es investi aussi dans un club? Pourquoi tu es devenu président de ce club de Dordogne Sud Cyclisme?
Déjà, je suis devenu président parce qu'il en faut un.
Ouais.
Voilà, donc un club, ouais. Voilà, on est obligé d'avoir un bureau. C'est pas la première chose que je souhaitais. Mais bon, après, c'est vrai que... à Dordogne Sud Cyclisme, c'est un club qui a eu 10 ans cette année. Après Sylvain Lebaille qui avait créé ce club voulait passer la main, donc il fallait bien quelqu'un pour reprendre. Comme le projet était plutôt sympa, c'est tombé sur moi et puis voilà, donc maintenant ça fait 4-5 ans. Après ça suit son cours et puis voilà, mais bon, c'était pas ma priorité principale. Moi ça m'enlève pas mon activité au niveau d'arbitrage. Et puis quelque part, c'est bien de s'occuper des jeunes parce que aujourd'hui, il faut du monde sur le vélo, mais aussi il faut du monde à l'extérieur du vélo pour justement encadrer.
Ton papa, du coup, était arbitre, comme tu viens de nous le dire. Oui. Il était dans la voiture balai, je crois.
Oui, alors sur le Tour de France, lui, il n'avait pas la qualification que j'ai aujourd'hui.
Ouais.
Donc lui, il pouvait faire que de la voiture balai, on va dire.
Enfin, d'accord.
Bon, déjà, c'est déjà très bien parce que c'est faire le Tour de France. Je crois qu'il a fait 6 fois. Voilà, et puis après, il était arbitre moto sur toutes les autres épreuves du calendrier fédéral, alors que ce soit le Dauphiné libéré, que ce soit Paris-Nice, Paris-Roubaix, enfin voilà, toutes les courses qu'on connaît au niveau international, lui, il a pu les réaliser quand même sur la moto.
Sur la moto. Il y est arrivé comment, lui, du coup, à ce niveau-là?
Alors lui, il était roulant à la SNCF, donc il a eu la retraite à 50 ans.
Ouais.
Et puis, ben, du coup, il a dit, mais moi, je me lance dans l'arbitrage. Et puis, depuis qu'il était à la retraite, ben, du coup, ben, ça lui a permis de faire les courses les plus belles, on va dire, les plus belles au monde. Parce qu'il y a des courses qui ont disparu, comme le Midi Libre, tout ça, où c'est des courses qui sont plus courtes que le Tour de France.
Ouais.
Et qui sont tout aussi prestigieuses au niveau sportif.
Après, du coup, 5 Tours de France, parce que toi finalement, tu as fait 5 Tours de France, ça va être ton 6e du coup cette année.
C'est mon 5e.
C'est ton 5e ouais, du coup, pardon, cette année.
On verra plus tard pour le 6e.
Ouais. Mais l'année prochaine, du coup.
Oh non, ouais, on verra.
Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le Tour de France?
Alors après, moi, quand j'ai arrêté de faire mes courses cyclistes, voilà, ouais, à mon niveau, voilà, ouais, qui n'était pas non plus exceptionnel, je me suis dit, un jour, ben, j'aimerais bien, moi, faire un jour Paris-Roubaix et puis le Tour de France, alors que ça soit sur une moto ou dans une voiture. Mais bon, c'est des courses qui font rêver. Aujourd'hui, ben, j'arrive à 3 Paris-Roubaix sur la moto et puis j'arrive à 5, ça fera mon 5e Tour de France. Donc, je pense que j'ai fait une petite carrière aussi dans l'arbitrage.
Dans l'arbitrage, voilà.
Ouais.
Qui est assez honorable. Et elle n'est pas terminée, d'ailleurs.
Non, elle n'est pas terminée.
Ouais.
On prend ce qui vient. Voilà,
ouais, bien sûr. Quel est ton rôle
sur le Tour de France qui arrive ou en général?
Sur le Tour de France ou en général aussi, on va commencer par le Tour de France si tu veux nous dire aussi en général.
Sur le Tour de France, mon rôle, moi je suis arbitre moto.
Ouais.
Donc je suis passager d'une moto avec un pilote de chez ASO. Et alors là, cette année, j'ai la responsabilité des 3 autres arbitres moto où c'est moi qui fais la coordination de mes collègues.
Voilà. D'accord.
Et si vous voulez, il y a toujours une personne qui fait remonter les choses, une personne numéro... Alors, on l'appelle moto numéro 1 parce que c'est... Voilà. Et cette année, c'est moi. Donc, moi, j'ai toujours été moto 2, moto 3, moto 4. Mais c'est vrai que là, cette année, ben, je gravis un petit échelon, on va dire, où j'ai de la responsabilité supplémentaire.
Pour les gens qui nous écoutent, comment ça fonctionne? Comment fonctionne cette coordination avec les motos, du coup?
Alors moi, j'ai la coordination de l'arbitrage.
Ouais.
Ce n'est pas toutes les motos du Tour de France.
Non, bien sûr, voilà. Non, mais les motos d'arbitrage, pardon.
Les motos d'arbitrage, eh bien, en fin de compte, dès qu'il y a une sanction à faire ou une pénalité, que ça soit, bon, on verra peut-être, on en parlera tout à l'heure, mais dès qu'il y a une pénalité, moi, à la fin de l'étape ou très proche de l'arrivée, on me fait remonter ce que les autres motos ont vu, parce que moi, je vois ce qu'il y a devant moi et ce qu'il y a juste derrière moi. Mais je ne vois pas ce qui se passe soit à l'avant du peloton, soit complètement derrière. Et eux me font un petit rapport vite fait, que ça soit de la moto qui est complètement derrière ou complètement devant. Et après, moi, j'informe le jury, donc les arbitres UCI, de dire, ben voilà, la moto derrière, elle a vu ça, la moto devant, elle a vu ça. Et puis après, ben, on prend les décisions, enfin, ils prennent les décisions par rapport au rapport que j'aurais donné.
Et du coup, par rapport à ce rapport, c'est là où c'est qu'en temps réel de la course, quand on écoute par exemple Radio Tour, souvent les décisions, du coup, peuvent être prises. Ça peut être une des décisions qu'on peut entendre du coup sur Radio Tour.
Bien sûr, si vous avez... allez, on va à l'extrémité. Si un coureur qui est accroché dans une patte à 20%, voilà, de toute façon, c'est une mise hors course immédiate. Donc là, sur les ondes de Radio Tour, vous entendez coureur un tel est mise hors course.
Oui, on l'avait vécu l'année dernière, du coup, dans la session de Lenny Martinez, qui avait été sanctionné, du coup, 3 crochets pour essayer de garder son maillot à poids.
Bien sûr.
Et du coup, il avait été sanctionné par les arbitres. Et donc, ça, c'est des décisions que toi, tu es amené, du coup, à prendre. Mais en fait, le rôle va aussi plus loin au niveau de...
Alors, après, ça, c'est quand tout va bien.
Ouais.
Ça veut dire que quand tout va bien, c'est bien. On a fait du bon boulot. Je pense qu'on a bien travaillé, mais aussi, on peut se tromper.
Ouais.
Voilà, on est des arbitres. On peut aussi faire des bêtises. Voilà, et puis après, le soir, des fois, quand on est à la fin de l'étape, on est fatigué parce que c'est très fatigant.
Ouais.
Et puis, il faut se dire les choses. Hein. Voilà, toi, tu n'as pas été à la hauteur du truc. Sache que c'est le Tour de France et il ne faut pas se rater. Voilà. Donc, on estime qu'on fait le maximum, en fin de compte. Voilà.
Oui. Et sachant que le Tour de France, on en parlait tout à l'heure en off, le Tour de France, c'est un petit peu la Coupe du Monde, quoi.
De toute façon,
la Coupe du Monde du football.
Le Tour de France, moi, la question qu'on me pose souvent... tu fais le Tour de France, mais tu le fais complet. Voilà, ça veut dire qu'en fin de compte, les gens... oui, bien sûr qu'on fait le Tour de France complet. C'est-à-dire que l'arbitre de la première étape qui aura samedi, ça sera les mêmes qu'il y aura jusqu'aux Champs-Élysées. Oui, bien sûr, on peut comparer ça à une Coupe du Monde, on peut comparer ça à des Jeux Olympiques. C'est le 3e événement mondial sportif, donc oui, c'est très important. Voilà.
Ah ouais, on parle du Tour de France, mais aussi course annexe, par exemple, à Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, ce sont des courses qui sont prestigieuses.
Oui, alors c'est moins prestigieux parce que c'est pas le Tour de France et c'est pas au mois, c'est pas au mois de juillet.
Ouais.
Mais par contre, oui, un Paris-Roubaix, un Dauphiné libéré, enfin un Dauphiné libéré, Dauphiné maintenant,
oui.
Le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes,
ouais.
Ben c'est aussi prestigieux. Et puis voilà, après, il ne faut pas oublier les courses à étapes qui sont pas loin de chez nous. Par exemple, vous prenez le Tour du Limousin-Périgord, où c'est des épreuves qui sont très... qui sont connus déjà d'un.
Bien sûr, et du beau monde.
Et du beau monde est très important parce que, ben voilà, et c'est des coureurs qui veulent gagner aussi des courses par étapes.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Où c'est que du coup tu officies aussi sur ce type de course?
Alors, en fin de compte, nous, quand on officie sur les épreuves qu'il y a en France, c'est les épreuves, que ce soit des Coupes de France amateurs ou jusqu'au Tour de France, c'est un calendrier qu'on a en début d'année. Et ça peut être Paris-Roubaix, ça peut être toutes les courses qu'on connaît. Mythique, on va dire, mais aussi ça peut être une Coupe de France qui peut être organisée, par exemple une Coupe de France à Sarlat, on peut être nommé dessus. Voilà. En fin de compte, on a la même fonction.
Est-ce que quand on parle du coup là hors Tour de France, mais par exemple dans l'Enfer du Nord, par exemple, est-ce qu'il y a des choses marquantes qui t'ont marqué dans ta carrière d'arbitre?
Alors, les choses marquantes, c'est l'évolution du sport que moi j'ai connu quand j'étais coureur.
Ouais.
Tout le monde a remarqué que ça roulait beaucoup plus vite. Mm. Ça, c'est clair. Étant donné que ça roule plus vite, il y a beaucoup plus de chutes, on va dire, voilà, ou d'incidents. La chose marquante, c'est quand vous arrivez sur une chute où là, vous voyez que la personne est très, très abîmée, voire carrément qui est décédée. Voilà, ça, c'est, moi, ça m'est arrivé, et puis ça, c'est des souvenirs qui sont gravés.
Ouais, je me doute. Et du coup, là, ton rôle, c'est plus en tant qu'arbitre, c'est vraiment de faire le passage pour les autres coureurs.
Ouais, c'est vraiment le truc qu'on n'aime pas faire, mais quand on a une chute collective, par exemple,
ouais, bien sûr.
L'arbitre moto qui est situé juste avec le président de jury, donc juste derrière le peloton,
ouais.
Et ben lui, il descend de sa moto et puis il doit former reformer la colonne, ça veut dire faire le passage. Donc quand vous avez des vélos en plein milieu ou des gars ou des filles, parce que moi j'ai fait le Tour de France féminin aussi. Ils ou elles sont au milieu de la route, et puis nous on n'est pas médecins, donc après les médecins arrivent de suite, mais nous on doit faire le passage parce que la course continue. On n'est pas quand il y a quelqu'un qui est tombé, qui est en mauvais état sur le bord de la route, et bien la course continue, excepté les chutes collectives qu'on a pu connaître. Moi j'ai connu ça en 2023 où une chute collective, la neutralisation de la course, ça c'est encore autre chose, mais sinon le vélo, ça continue, voilà, ça roule toujours.
Quand on parle de neutralisation de la course, on arrête le peloton, on arrête l'échappée, on prend les temps, voilà. Et on repart du coup avec les temps qui étaient définis au départ.
C'est exactement ça. Je vois que tu pourrais passer ton diplôme d'arbitre.
Non.
Oui, mais voilà. Mais après, on parle de chute, mais bon, malheureusement, c'est ça. Mais ça peut être aussi un arbre qui tombe au milieu de la route, ça peut être un passage à niveau,
Bien sûr, ça peut être
une manifestation, peut être plein de choses.
C'est arrivé, du coup, les passages à niveau, du coup, sur le tour, par exemple, je revois les images.
Et là, il y a bien un règlement bien précis par rapport aux écarts de temps. Voilà.
D'accord.
Mais par contre, là, on n'est pas tout seul, on est tous en coordination avec les arbitres UCI, avec la direction de course. Pour faire repartir ou pas, les échapper avec les écarts ou tout ça dépend des temps. Voilà.
Ça dépend des temps. Mmh. Grosse organisation là du coup, parce que faut que tout le monde soit d'accord sur les temps.
Ouais, mais bon, après on connaît tous le règlement. Oui, de toute façon, pour la prise de temps, il y a toujours une moto info qui est constamment avec des temps qui est pris. C'est vraiment bien particulier. La moto info, c'est un travail particulier justement qui nous donne toutes les informations au kilomètre près.
Pour le spectateur, c'est du coup ce qui nous permet du coup de voir quand il y a une échappée à 3 minutes par exemple. Mm. C'est la moto qui est intercalée. Du coup, il y a une moto qui est sur le peloton et une moto qui est sur l'échappée. Ouais, comment?
Alors là, en fin de compte, c'est des motos. Alors je pense que c'est les motos caméras qui ont des GPS.
Ouais, ok.
Avec des écarts, des fois qui fluctuent parce que la moto elle est plus derrière les coureurs, donc il faut faire des fois attention.
Voilà. Des fois ça trompe.
Alors ça c'est ce que vous voyez à la télé.
Ouais.
Mais nous on a d'autres infos qui arrivent dans nos casques.
D'accord.
Voilà, c'est pas de tout repos pour nos oreilles sur une étape du Tour de France, entre les spectateurs qui crient après tout le monde, surtout après les coureurs, mais et plus les informations qu'on a, des fois c'est la tête, elle sait plus où elle en
est. Est-ce que dans les étapes de montagne, t'as déjà eu peur par rapport à la foule?
Peur, non, parce qu'on est quand même assez protégé. Nous, en fin de compte, on est toujours derrière des coureurs, Donc ben, la route s'écarte, enfin les coureurs, ouais, les coureurs font écarter la route puisqu'il faut laisser le passage et nous on est juste derrière. Mais je ne vous cache pas que des coups de poing dans les épaules ou dans le casque, c'est déjà arrivé.
D'accord.
Après, au bord de la route, il n'y a pas que des gens passionnés par le vélo. Il y a aussi des gens qui sont là pour, ben, parce que c'est la fête, ok, mais bon, la fête a une limite. Et c'est quand même une épreuve sportive. Il faut respecter que ce soit les coureurs dans un premier temps, mais aussi ben, toute l'infrastructure qui est mise autour, que ce soit la caravane publicitaire pour le Tour de France, mais il y a des caravanes publicitaires ailleurs, mais aussi les, ben, toutes les voitures qui roulent. Voilà. Après, c'est pas, la route n'est pas barriérée tout le long. Voilà.
Non, bien
donc,
sûr.
Automatiquement, dans l'école, ben, il y a des débordements, mais ça, moi, c'est pas mon boulot, mais on le voit à la télé. Voilà.
Ouais, on le voit à la télé.
Même si aujourd'hui, ASO, la société du Tour, met en place du barriérage, du cordage, ouais. Pour éviter tous ces...
On a de plus en plus, voilà. Du coup, des barrières qui sont installées, ouais, ouais. Ou des cordages. Ouais.
Moi, j'ai vécu le départ à Bilbao, dans les dernières montées, qui étaient à 15-20%. C'était tout barriéré, ils avaient couché les barrières pour qu'ils se sont fait des tribunes avec les barrières. Voilà. Comme ça, ils étaient un peu plus haut. Donc, ça veut dire qu'ils étaient au milieu de la route. Et quand on est arrivé, nous, c'était très, très compliqué. Voilà. Et après, ben, quand c'est des pentes qui sont excessives, ben, les motos ou les voitures, ben, ça cale, il faut repartir. Enfin, voilà. Et, la priorité, c'est les coureurs. Ça veut dire que le coureur qui pédale, il ne doit pas être gêné.
Oui, voilà. Oui, oui.
S'ils sont gênés, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, maintenant, ben, on sait la trouver via la VAR ou l'hélicoptère. Et puis voilà, après, il y a des sanctions qui sont prises, pas spécialement après les cyclistes, mais aussi après, ça peut être une moto presse, une moto arbitre, ça peut être n'importe quel véhicule qui a gêné. Et là, attention, c'est autre chose. Là. Voilà.
On voit encore l'image aussi dans les Pyrénées, je crois, où c'est que Vingegaard, c'est Pogacar qui est du coup gêné sur son attaque, ouais. Par une moto.
Oui, c'est vrai. Oui.
Ouais, ouais. Et du coup, là, c'est le conducteur de la moto qui a été sanctionné.
La moto a été sanctionnée, bien sûr.
Ouais, ouais. Mm. Ou encore le chauffeur de la voiture qui avait percuté un coureur qui l'avait projeté sur une clôture. Je ne me souviens plus quel était le coureur.
Au Garland.
Oui, ouais, exactement. Mm. Ouais. Du coup, je pense que le chauffeur avait dû manger.
Bien sûr, hein. Oui. Ouais, ouais. En sachant que maintenant, il y a des cartons jaunes.
D'accord.
Qui sont mis sur les courses, UCI. Tout pilote qui conduit, soit voiture, soit moto, peut être sanctionné par un carton jaune.
D'accord, ok, ok.
Ça veut dire que moi, mon pilote peut être sanctionné. Si moi, je lui dis un truc que je ne dois pas faire, ben, il peut être sanctionné.
D'accord.
Et moi aussi, d'ailleurs.
Ok. Toi aussi, même en tant que... Ah oui, tu peux prendre un carton jaune.
Oui.
Ok. Et deux cartons jaunes, un carton rouge, non.
Ben non, alors c'est... Le carton jaune reste, ouais. il est dans votre dossier, et puis au bout de 3 mois, alors ça dépend des épreuves,
ouais.
Après il n'y a plus de carton, et puis on revient à zéro.
D'accord, voilà. Ok.
Mais
okay,
attention, okay. Les coureurs qui ont un carton jaune, il ne faut pas qu'ils en aient deux.
D'accord, mais c'est bon à savoir.
Ben oui.
Des choses que ça, on
ne sait
pas.
Ça a été mis en place il y a 2 ans maintenant.
D'accord, pour du coup améliorer la conduite, certainement.
Pour améliorer le comportement des coureurs en course. Et
d'accord.
Bien sûr, les conducteurs.
Des conducteurs, voilà. Ouais. Ouais.
Alors après, sur le Tour de France, il n'y a pas tant de cartons jaunes que ça.
Ouais.
Parce qu'il y a tellement de caméras et tout ça que ça, on est quand même...
Ouais, c'est quand même plutôt bien cadré.
C'est ça.
Comment on sait, du coup, qu'on est sélectionné au Tour de France ? Comment on sait qu'on va prendre le départ de cette nouvelle édition du Tour de France et qu'on va aller à Barcelone ?
Alors après, c'est plutôt simple. On a un calendrier à remplir, voir si on est disponible ou pas par rapport aux dates de l'année. Ce n'est pas spécialement le Tour de France.
D'accord.
Et après, la Commission nationale des arbitres... téléphone ou envoie des messages en disant, ben voilà, on te propose le Tour de France, est-ce que tu es d'accord ? Est-ce qu'on te propose Paris-Roubaix, est-ce que tu es d'accord ? Une Coupe de France
aussi. Ok.
Voilà. Alors principalement, ils appellent pour les courses qui sont longues, parce que moi, ce n'est pas mon travail, attention. Hein. Moi, certes, j'ai des vacances, mais il faut... Il y a le planning familial aussi à respecter.
Ouais.
Voilà, donc moi j'ai la chance
d'être... Là, du coup, tu prends des congés pour...
Moi, je suis enseignant, donc juillet, août, ça va.
Oui, oui.
Mais moi, j'ai des collègues. Là, on va arriver le dimanche soir aux Champs-Élysées sur le coup des 20h. Le lendemain, à 8h, ils sont au travail. Voilà, c'est leur congé, en fin de compte. Voilà, donc moi, j'ai cette chance-là. Et puis, c'est très bien pour moi, c'est clair. Mais voilà, après, c'est... oui, on la prend comme ça. Ça veut dire que... voilà. Bon, cette année, ça a été un peu différent parce que moi, étant donné que je suis responsable des motos, on m'a demandé déjà si je voulais être responsable des arbitres moto.
Ouais.
Après, on dit oui, on dit non. Voilà. Après.
Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire ?
Non. Après, moi, j'ai jamais trop eu la pression.
Ouais.
Et voilà. Après. Alors, bien sûr que quand on est sur des situations bien particulières où il ne faut pas se tromper. Hein. Voilà. Après.
Oui, oui, bien sûr.
Les critiques sont faciles et ça va vite. Les réseaux sociaux nous amènent des choses qui ne devraient pas amener. Mais voilà, après, moi, je suis plutôt serein, plutôt tranquille. Mon premier Tour de France, eh ben, c'est sûr, quand on arrive dans cette grande machine, eh ben, c'est plus compliqué que le cinquième, ça, c'est clair.
Bien sûr.
Moi, je suis à l'aise. Après, je ne suis pas à l'abri de faire une bêtise sur un barrage, sur une chute, voilà. Après, on est des êtres humains, voilà. Mais on est tous pareils. Hein, voilà.
Oui, bien sûr.
Après, nous, on peut faire des bêtises, mais les coureurs aussi. Après, s'il y a sanction, c'est qu'eux, on fait des bêtises.
Alors, une question souvent qui revient... À quel moment on juge qu'un coureur triche quand on fait le ravito? Le ravito, c'est
le bidon collé.
Le bidon collé.
Ça, c'est la grande question.
Parce que ça, on ne sait pas. On regarde la télé, on se dit. Alors là, il remonte. À partir de quel moment, combien de temps on dit qu'il triche?
Alors, il n'y a pas de combien de temps à partir de combien il triche.
Ouais.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on voit ce que vous voyez à la télé avec des bidons collés, ah ouais, mais il n'a pas le droit. Ok. Sauf qu'après, il faut lire les communiqués.
Ouais.
Parce que c'est pas parce que à la radio le commentateur, que ça soit sur n'importe quelle chaîne télé, dit ah c'est pas bien, mais derrière il faut voir ce qu'il y a eu.
Ouais.
Parce que peut-être que celui qui a eu le bidon collé, il a pris des secondes de pénalité, tout ça. Et ça, en fin de compte, le public le voit pas. Ça veut dire qu'il y a que nous qui infligeons cette amende et le communiqué est pas lu en fin de compte. Et c'est ça qui est un peu regrettable, parce qu'en fin de compte en foot, quand il fait une faute, tout le monde le voit. Les 80 000 spectateurs voient qu'il y a une faute. Et là il y a carton jaune, carton rouge, enfin tout ce que vous voulez. Alors que le vélo, y a un bidon collé, y a autre chose, parce qu'on parle des bidons collés, mais ça peut être autre chose. Y a souvent des amendes. Mais par contre, c'est co-communiqué, et le communiqué, personne ne le lit.
Ouais.
Excepté les gens qui sont du monde du vélo et qui aiment voir ce qui s'est passé. Moi, je connais des personnes, elles se reconnaîtront si elles m'écoutent. Tous les soirs du Tour de France, ils lisent les communiqués.
D'accord, ok.
Parce qu'ils savent très bien qu'à un moment... Ils ont vu un truc et ils savent très bien que y a les arbitres ont mis quelque chose.
Ouais, déjà qu'ils durent.
Quand on dit les arbitres ont mis quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont soit un avertissement, soit une amende pécuniaire ou en temps. Enfin, voilà.
C'est bizarre parce que quand par exemple je regarde beaucoup Eurosport et quand on écoute Jackie Durand ou par exemple Six Channel, jamais ils font rapport justement à ces communiqués. Ils en rigolent souvent d'ailleurs.
Ils en rigolent, mais si on regarde le dernier championnat de France c'était la course des hommes dimanche.
Ouais.
À un moment, la moto arbitre est venue informer. Non, c'était les amateurs. La moto arbitre est venue informer un coureur. Et je pense que c'est Jackie Durand, il a dit, oula, il s'est passé quelque chose. Et en fin de compte, il s'était passé quelque chose qui n'avait pas été télévisé.
D'accord,
voilà.
Okay.
Donc lui, il avait vu qu'il y avait eu quelque chose, mais il ne savait pas quoi, mais en tout cas, ça a été...
Ça, c'était la notion de l'ancien coureur qui a vu...
Parce qu'en fin de compte, un arbitre qui va dire quelque chose à un coureur, en plus, quand il y a la télé, c'est très rare.
Ouais.
C'est vraiment qu'il y a eu quelque chose. Ça veut dire que moi, à la télé, vous ne me verrez jamais. Nous, on est toujours derrière la caméra, en fin de compte. Si vraiment on passe devant, c'est que soit qu'on s'est raté, soit c'est vraiment qu'il y a quelque chose de très grave.
Et il y a un responsable, du coup, il y a un responsable des arbitres qui doit parler s'il y a quelque chose.
Alors après, quand il y a vraiment une grosse, je sais pas, une mise hors course, c'est le président du jury. De toute façon, c'est le président du jury des arbitres qui a la parole pendant le Tour de France ou pendant un tour lendemain.
Ouais.
Voilà. Après,
c'est carrément le directeur du Tour de France qui prend la parole.
Oui, pour annoncer des courtes. Oui, bien sûr. Mais dans tous les cas, par exemple, moi, j'ai pas le droit d'annoncer une sanction qu'il y a eu. Moi, mon supérieur, c'est le président du jury.
Du jury, oui. Voilà. Ouais. Alors, tu en parlais tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Comment ça marche, les sanctions? C'est quoi, les sanctions? Ça peut être des secondes, ça peut être...
Bon, alors, les sanctions, bien sûr, elles sont pécuniaires.
Ouais.
Voilà, donc c'est en France suisse parce que c'est géré par l'UCI. Là, on parle bien du Tour de France.
Oui, du Tour de France, oui, bien sûr.
Et après, ça peut être des pénalités en temps.
Ouais.
Voilà, je ne sais pas, 20 secondes, 40 secondes. Ça dépend de l'infraction. Ça dépend de la course, ça dépend d'où ça s'est passé. Ça dépend si c'est une épreuve en ligne, une épreuve chronométrée en contre-la-montre. Voilà, avec abri prolongé, enfin voilà. Et puis après, il y a des points par rapport au classement du meilleur grimpeur au meilleur sprinter.
D'accord.
Ça peut être des sanctions comme ça.
Comme ça.
Voilà, il y a bien un barème défini. C'est pas aujourd'hui on va faire, on va mettre que 10 secondes, là 20 secondes. Non, c'est bien défini. C'est réglementaire.
Et du coup, quand on voit, par exemple, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'en fin de course, on voit un classement provisoire,
bien sûr.
Souvent à la fin d'étape, et c'est du coup en fin de...
Alors, le classement provisoire de l'étape, c'est parce que peut-être que ça a été litigieux à la photo finish.
Ouais.
Donc là, c'est le ou la juge arrivé qui... Là, sur le Tour de France, il y a deux juges à l'arrivée.
Ouais.
Il n'y a que elle qui valide le classement
D'accord.
du sprint.
D'accord.
Et après, y a le classement qu'on voit du maillot jaune. Donc là, ça, c'est les chronométreurs qui valident les écarts qu'il y a eu entre tel et tel coureur.
D'accord, okay.
Voilà. Okay. C'est pour ça que c'est toujours classement provisoire. Et ce classement provisoire s'officialise quand... quand tout le monde est OK.
Et OK, et a été validé du coup par tout l'ensemble des arbitres.
En sachant que sur le communiqué, c'est toujours des classements validés.
Validés, ouais. Ouais, ouais. C'est quoi une journée type sur le Tour de France, du coup, Stéphane ?
Alors la journée type, c'est le matin, c'est toujours un petit footing parce que
D'accord.
Là cette année en plus il y a des gars qui font un peu de course à pied, donc ben nous ça nous permet aussi de s'évader parce voilà. Mais après une journée type, c'est le transfert le matin pour aller sur la ligne de départ. Sur la ligne de départ, il y a toujours une réunion entre tous les arbitres,
d'accord,
que ça soit de président de jury jusqu'au tous les arbitres qu'il y a, on est 14 sur le Tour de France. Et après, nous, la fonction d'arbitre moto, c'est contrôle des vélos.
Ouais.
Alors, on ne contrôle pas tous les vélos tous les jours, mais on tourne par rapport aux étapes, au profil des étapes qu'on va avoir.
Principalement des leaders ou pas forcément ?
Si vous prenez une étape de montagne, oui, il y aura tous les leaders. Si vous prenez une étape de plat, il y aura pratiquement tous les sprinters. Mais après, c'est aléatoire. On peut aller voir 3, 4 équipes, 5 équipes différentes de l'équipe du sprinter qui sera sur l'arrivée de Bergerac, par exemple. Ça, c'est... Et puis après, si on a un doute, on a d'autres possibilités de contrôler des vélos, que ça soit la fraude technologique, tout simplement des moteurs. Il y en a ou il n'y en a pas, mais en tout cas, il faut les vérifier. Et puis après, les positions des guidons, les positions et du nouveau matériel aussi, parce que là, on arrive sur une période où le Tour de France, il y a toujours des nouveautés.
Ouais.
Donc, sont testés. Donc, je vous dis pas que le vendredi, samedi, pour les premiers jours du Tour de France, parce que pour nous, ça commence vendredi. On a du travail.
Et du coup, est-ce qu'il y a, par exemple, on voit qu'il y a des changements de vélo souvent. Alors, souvent, c'est souvent changement de vélo. On passe de la plaine, on passe après dans la montagne. Il y a un changement de vélo. Est-ce que quand on voit qu'il y a beaucoup de changements de vélo, on peut se dire, là, on va les contrôler?
Alors, de toute façon,
après... Ou les contrôles sont déjà prévus à l'avance?
Alors, les contrôles sont quand même déjà... les contrôles sont prévus à l'avance, puisque nous, on n'y va pas comme ça. Moi, j'ai mon tableau de marche qui est fait, que ce soit ma position sur le Tour de France à toutes les étapes, mais aussi par rapport aux équipes qu'on peut contrôler. Alors, bien sûr, on ne connaît pas qui va gagner, on ne connaît pas qui va performer, on ne sait pas tout ça. Mais on a toujours notre petite idée de contrôler telle ou telle personne, sur des étapes de montagne, sur des étapes de plaine, c'est pour ça que je vous dis on est à l'aise, parce que moi je suis à l'aise, et puis mes collègues je pense que c'est la même chose, parce que là-dessus on est quand même assez rodé pour contrôler tout ça.
Tu as recours, du coup souvent tu peux discuter avec les directeurs sportifs.
Oui.
Ouais. C'est lequel le plus élégant des directeurs sportifs? Quelle est l'équipe la plus élégante, je dis,
là-dessus j'ai pas d'équipe préférée, de toute façon j'ai pas à en avoir.
Ouais, bien sûr.
J'ai pas de coureur préféré, que ça soit un tel ou un tel. Pour moi, c'est un coureur, que ça soit le premier ou le dernier, s'il y a une erreur de sa part, tant pis. On applique le règlement, que ça soit, Pogacar, Vingegaard, ou Sexas, pareil que ce soit ceux qui sont plus au fond du classement ou des gens qui ont gagné des étapes ou des gens qui ne gagneront jamais des étapes. Il y a des coéquipiers après, on est neutre, complètement neutre. Justement, c'est par rapport à ça aussi que j'ai fait ma place, parce que... je pense que j'étais plutôt neutre sur toutes mes décisions j'ai prises, que ce soit au niveau national et puis international. Je pense que c'est ça. Après.
Est-ce que tu as déjà dû prendre une décision difficile ou controversée dans ta carrière ?
Difficile, oui. Controversée, non.
Non, ouais.
Non, j'ai pas le souvenir d'avoir pris une décision controversée. Parce que si elle est controversée, ça veut dire que ce n'est pas spécialement la bonne.
Bien sûr.
Difficile, oui. Après, que des coureurs qui tombent et puis ils n'ont pas le droit de s'accrocher aux voitures, tout ça, c'est difficile parce qu'on sait très bien que c'est le Tour de France, que c'est leur travail, c'est leur objectif. Mais encore une fois, il n'y a pas que le Tour de France. Mais si aujourd'hui on parle du Tour de France, c'est pour parler du Tour de France. Oui, bien sûr qu'il y a des sanctions qui sont difficiles.
Ouais.
Alors, pas spécialement que j'ai mis... Je l'ai mise moi, mais que ça soit le jury qui a sanctionné, ça fait toujours mal au cœur. Moi, je me rappelle des coureurs de la Française des Jeux qui avaient été mis hors délai à Chambéry. 5 coureurs hors délai, j'y étais.
Voilà, et dont un périgourdin qui était là village, où, à la veille.
Oui, oui. Et puis, bon, après, on a pris l'avion avec eux le soir. Donc, voilà, pour revenir sur Périgueux à l'époque.
Ouais, ouais.
Mais voilà, après, c'est, ben, tout ça, ben, c'est l'histoire du Tour aussi. Hein, voilà, c'est comme ça.
Est-ce que
mais on avait appliqué le règlement.
Est-ce que pour toi, le Tour de France, aujourd'hui, est plus difficile à arbitrer aujourd'hui que les années passées? Et pourquoi?
Alors, plus difficile à arbitrer, non.
D'accord.
Je pense pas.
Ouais.
Les moyens sont à peu près les mêmes qu'il y a quelques années. Le seul truc qui a changé, c'est quand même la VAR.
Ouais.
C'est 2018. Hein. Voilà, 2018, il y a la VAR. Donc ça, c'est quand même. Il faut savoir qu'on est relié avec la VAR par satellite. Hein. Donc s'il y a vraiment il y a quelque chose, ils peuvent nous parler directement.
D'accord.
Il y a ça. Mais après, c'est pas plus difficile. Ce qui est plus difficile à arbitrer, c'est que ça va plus vite, que c'est plus dangereux, bien sûr, mais bon, ça, à la rigueur, c'est pas la vitesse qui va nous rendre la difficulté à arbitrer, la dangerosité, du moins.
Ouais.
Mais après, ce qui peut. C'est qu'ils sont très proches les uns des autres, en fin de compte. Alors, je dis pas sur le vélo, c'est une certitude,
ouais.
Mais après, c'est surtout au niveau du temps, au niveau des secondes qui séparent les coureurs les uns aux autres. Voilà, de toute façon, là, on va bien voir sur les premières étapes, ça va être très, à mon avis, ça va être très serré. Un contre-la-montre aujourd'hui, vous regardez,
ouais, c'est
à part le premier, donc c'est souvent Ghana, mais après, derrière, les leaders, ils sont dans un mouchoir de poche.
Bien sûr, voilà. Bien sûr.
Donc,
bien sûr.
Donc ben là, tout joue, en fin de compte.
Et la dernière question avant de nous quitter, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui rêve de devenir commissaire?
Ah ben, qui fonce.
Il fonce.
Ouais. Mais qui...
Et ça passe par quoi?
Ben, la passion, déjà, aide. Hein. Après, il ne faut pas croire que quand on est commissaire, on va aller faire le Tour de France.
Ouais.
Voilà, il ne faut pas leur faire croire non plus. Moi, j'ai la chance d'y être parce que je ne suis pas arbitre depuis hier. Hein. Voilà, mon premier tour, c'était en 2014. Donc, voilà. Mais après, il faut foncer. Il faut, et puis, pas attendre d'avoir 40 ou 50 ans. Je pense que les jeunes aujourd'hui qui sont à un niveau moyen sur le vélo, qui seront... Voilà, après, le vélo, c'est difficile quand même. Enfin, c'est pas quand même, c'est sûr. Mais peut-être s'orienter sur des... Moi, j'ai passé mes diplômes d'arbitre et je pense que j'étais le seul. J'étais encore sur le vélo. Alors certes, je ne faisais pas l'arbitre, mais j'avais passé mes diplômes là. Donc déjà, j'avais quelque chose qui était en moi, qui me disait, oui, peut-être que plus tard, tu pourras faire arbitre.
Ça, ouais.
Mais aujourd'hui, oui, il faut se lancer assez vite parce que déjà, un, il manque d'arbitre. Et de deux, aujourd'hui, c'est quand même assez... facile, on va dire, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, de pouvoir accéder aux formations.
D'accord.
Voilà,
d'accord.
C'est plus des déplacements. Là, il y a beaucoup de visios qui se font. Voilà, il y a quand même beaucoup d'accompagnement. Moi, j'accompagne des arbitres. Voilà, alors peut-être pas spécialement en Dordogne parce que j'ai mes activités aussi autres. Mais là, j'ai animé une visio sur l'arbitre moto la semaine dernière où il y avait 160 arbitres connectés avec une formation de la Fédération française. Voilà, donc si vous voulez, il y a des jeunes qui arrivent, il y a une génération, la Fédé a créé la génération 2027 où il y a des arbitres qui pourront rester dans le cursus.
Merci Stéphane,
merci
d'être venu à Demeure Sport. S'il y avait un dernier mot à dire, tu nous dirais quoi?
Vive le vélo!
Vive le vélo! Et rendez-vous samedi, du coup, sur le Tour de France.
Ok.
Merci à tous d'être fidèles à Demeure Sport. Moi, je vous donne rendez-vous dès le mois de septembre pour une nouvelle rentrée de la Demeure Sport. Ciao, ciao, merci.
Et ça a parlé.